Quelles énergies pour demain, avec en sous-titre un monde sans carbone. Table ronde donc qui se déroule en partenariat avec le prix Une Autre Terre, donc l'association Une Autre Terre qui fait tout un gros travail pour essayer de rassembler un certain nombre d'intervenants pour partager sur, autour des problématiques de l'écologie, divers regards, le regard du politique, le regard du scientifique, le regard des écrivains, le regard du citoyen, pour que tous ces regards-là qui se rencontrent puissent essayer d'avancer vers des solutions concrètes. Également en partenariat donc avec le SCOT des Vosges, qui est donc une structure qui, elle aussi, travaille sur des schémas territoriaux pour essayer de faire avancer aussi ces questions-là. Alors, les invités donc, autour de cette table, donc, à part Pierre Bordage, nous avons donc juste à ma gauche Françoise Fleury, qui est déléguée, donc membre du SCOT des Vosges et qui, donc à ce titre, représente le SCOT des Vosges ici, mais qui est aussi mairesse d'une petite commune, donc la commune de Desvillers, qui est une commune non loin d'Épinal, dans laquelle il y a un travail qui est fait justement sur ces thématiques des économies d'énergie, et vous serez amené à nous en parler. Nous avons Robert Belmas, donc écrivain, mais également docteur en physique atomique et directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, qui écrit avec son épouse Claire des romans de science-fiction et qui a été lauréat du prix Autre Terre en 2008 avec le roman Épicentre. Alors, Pierre arrive. As-tu été prévenu, Pierre, que tu devais intervenir ?
Non, je n'avais pas mon programme perso.
Ah, voilà pourquoi. Bon, ce n'est pas bien grave. Bon. Ça va, pas trop ? C'est bon. Alors, donc, Pierre Bordage, qui, comme je le supposais, a eu un petit souci et n'avait, sur son programme perso, il y a eu une petite coquille et il n'avait pas été prévenu qu'il devait être là. Donc Pierre Bordage, auteur de plus d'une trentaine de romans dans les genres de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, qui, notamment, très souvent, va injecter ses valeurs et injecter des choses à l'intérieur de ses romans et des conceptions humanistes et qui va pouvoir aussi nous donner le regard de l'écrivain et du citoyen autour de ces thématiques de l'énergie. Et enfin, Vincent Pierret, donc, qui est ingénieur du bureau d'études Terre Énergie et qui représente l'association Négawatt, qui, à travers un certain nombre de brochures et d'ouvrages, mène une réflexion pour, aller vers des énergies plus propres, entre autres, et qui pourra nous parler de ses travaux. Alors, justement, Vincent Pierret, par rapport à tout le travail qui a été fait dans les ouvrages et la réflexion de Négawatt, quel est le problème, parce qu'il faut que le public comprenne bien, on parle d'énergie nouvelle, ou en tout cas d'aller vers une énergie plus propre, mais pourquoi ? Quel est le problème posé actuellement par les énergies actuelles, les énergies fossiles ?
Bonjour à tous. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. Négawatt n'est pas forcément en train de rechercher de nouvelles énergies. La problématique aujourd'hui sur l'énergie, effectivement, il y a la raréfaction des ressources. Ça, c'est essentiellement vrai pour les ressources fossiles. Il y a le problème du changement climatique. Et il y a plus globalement, parce que l'énergie, je fais citer un collègue énergéticien, c'est ce qui sert à transformer la nature. Il y a un rapport à la nature au travers de l'énergie qui aboutit à un certain nombre d'autres destructions, d'autres limites. Donc aujourd'hui, la question, elle est plus de se demander quel rapport à l'énergie et de quel service énergétique on a besoin pour arriver à définir comment, d'un point où on est aujourd'hui, donc basé essentiellement sur des ressources fossiles et fissiles non renouvelables, et dans un rapport de consommation énergétique très important, à un système basé sur des énergies renouvelables, en approchant donc, de manière organisée au travers de scénarios. Donc, Négawatt depuis 2006, enfin déjà en 2003, un deuxième scénario en 2006, et un scénario tout à fait conséquent 2011, qui a été au centre des débats dans le cadre de la transition énergétique, enfin du débat national sur la transition énergétique. La loi arrivera peut-être. Et donc au travers de ce scénario, on explore les possibilités de sobriété, d'efficacité et de substitution par des énergies renouvelables de nos besoins actuels. Voilà. Ça, je le développerai un petit peu plus si vous voulez. Mais aujourd'hui, clairement, il y a raréfaction des ressources, il y a contrainte du changement climatique et plus globalement, l'impact humain sur l'environnement au travers de l'utilisation de l'énergie abondante et peu chère.
Alors justement, sur ces thématiques de l'épuisement des ressources, le changement climatique, etc., un certain nombre d'écrivains de science-fiction ont depuis longtemps alerté, ont essayé d'écrire des choses avec tout un courant de la science-fiction qu'on appelle la science-fiction post-apocalyptique, où on était arrivé à cette phase où l'homme a épuisé les ressources, et puis, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et on se retrouve face à des situations catastrophiques. Alors justement, Pierre Bordage, dans Les Derniers Hommes, on est notamment dans le cadre d'une Europe post-apocalyptique, donc dévastée par tout un tas de pollutions diverses, et où finalement les derniers hommes vont tenter de survivre et de s'adapter. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet environnement que vous avez créé ?
Oui, ça part pas d'un constat très optimiste, c'est moins qu'on puisse dire. Je pense que si on continue sur le modèle qu'on a actuellement, on court à la catastrophe, pour plein de raisons, parce que le substitut nucléaire me paraît non plus pas être une véritable option intéressante non plus. Pour un auteur de science-fiction qui souvent est dans la mise en garde, finalement, dans l'accélération des choses, il y a toujours cette tentation d'aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin, et si le monde dérape, et si on va jusqu'au bout de cette logique-là, qu'est-ce qui peut arriver ? Et ce qui arrive en général, c'est quelque chose de pas très agréable pour l'humanité. Donc c'est je pense, pour compléter la réponse, que tant qu'on ne se décollera pas du modèle économique en ce qui concerne l'énergie, on ira toujours vers la catastrophe, parce qu'on privilégiera bon d'accord, vous avez compris la rentabilité ou l'économie, et que donc on n'aura jamais une vraie réflexion. J'ai été invité du temps où Nathalie Kosciusko-Morizet était ministre de l'écologie, elle m'a invité parce qu'elle voulait faire. Enfin, une de ses conseillères lui avait dit ce serait bien d'associer les auteurs de science-fiction à la réflexion sur l'écologie et puis l'énergie. Et donc, on était au cours d'un dîner et je lui ai dit j'aurais pas dû dire la première phrase que j'aime pas votre président, mais bon, ça c'est une chose. Ça n'a rien à voir avec le truc, c'est juste pour se défouler un peu, histoire de mettre des pendules à l'heure. Et le deuxième, c'était je voudrais qu'on reparle, qu'on mette en cause le dogme nucléaire. Non, ça c'est impossible, absolument impossible, c'est pas discussion close, terminée. On ne pouvait pas aborder l'énergie sous l'angle d'une autre alternative que le nucléaire. Et voilà, ça m'a inspiré après si on continue dans ce modèle là on peut arriver à des catastrophes. Et cette belle civilisation qu'on prétend belle, d'ailleurs, elle peut s'écrouler comme... Un autre point aussi qui m'avait beaucoup alerté, c'était quand il y a eu la grève de routiers, je crois que c'était dans les années 1990, il y a eu une grève de routiers qui m'a fait vraiment réfléchir sur le modèle économique qu'on avait, c'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y avait plus un seul supermarché qui était approvisionné, tout était bloqué. Et je me suis dit, mais on est incapable, nous, l'humanité, de se nourrir par des ceintures alimentaires proches, et qu'on dépend de tout un tas de systèmes de transport qui est extrêmement peu lent, extrêmement lourd, etc. Donc c'est toutes ces réflexions-là qui m'ont poussé à faire des univers post-apocalyptiques où, évidemment, l'énergie rentre pour une bonne part dans la catastrophe.
Vincent Pierret, donc là, c'était juste un peu pour brosser le constat, ça va pas, il faut faire quelque chose. Alors, justement, on parle d'énergie de remplacement ou d'énergie propre et éventuellement d'économie d'énergie, on parle de plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour pallier ces problèmes, pour remédier à cette situation qu'il faut absolument faire cesser ?
Alors, si on prend la situation dans l'état actuel et qu'on considère que le niveau de consommation énergétique est indiscutable, pour citer un autre président, que moi non plus j'aimais pas, mais qui était américain, qui a dit notre niveau de vie et notre mode de vie n'est pas négociable par rapport aux négociations sur le climat et sur Kyoto, si on part de ce principe-là, évidemment, il n'y a aucune solution. Et je pense que l'anticipation est garantie sur facture que le résultat va être là. Il faut partir du principe, justement, s'il y a un dogme qu'il faut dépasser, c'est celle de la consommation énergétique qui n'est pas liée à un niveau de bonheur. Hein, si le bonheur était corrélé au nombre de kilowattheures consommées, il n'y aurait pas autant de dépression et les Américains seraient les plus heureux du monde, évidemment. Donc il faut dépasser ça par une première approche d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie. Et qui se décompose, et ça c'est l'originalité de ce qu'a apporté Negawatt, peut-être la plus grande originalité, c'est de décomposer ça en deux aspects. Un aspect purement technique, qui est le plus connu, le travail des ingénieurs, grosso modo, c'est l'efficacité énergétique. C'est isoler des bâtiments, c'est avoir des véhicules qui consomment moins par unité de transport, c'est avoir des centrales plus performantes, c'est technique. Ça c'est quelque chose qui est très bien accepté dans un univers très technicien dans lequel on est, très technoscientiste. Par contre, en général et jusque maintenant, tous ces progrès techniques a été intégralement absorbé dans son efficience par des effets rebonds, par des nouveaux usages de l'énergie où, quand on réduit le coût unitaire de production d'un service, il se généralise. Donc, au lieu d'obtenir des réductions et de l'efficacité énergétique était un développement croissant de la consommation énergétique. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits là-dessus, même assez anciens. Hein, ça, on le sait depuis l'hypothèse de Kaya, je crois, égalité de Kaya, c'est quelque chose qui a une quarantaine d'années. Quoi. Donc, ce n'est pas une découverte. Et c'est très lié au système économique, hein, je suis bien d'accord avec vous. Donc, l'originalité de Negawatt, c'est d'amener la sobriété énergétique comme préalable et complémentaire à l'efficacité énergétique pour réduire les consommations énergétiques. Alors qu'est-ce que la sobriété énergétique ? La sobriété énergétique, ce n'est pas le retour à la bougie, comme certains l'ont caricaturé, c'est que de manière collective et individuelle, on questionne notre rapport à l'énergie. Alors la question un peu iconoclaste, c'est combien de kilowattheures pour être heureux ? Comme il n'y a pas de réponse à cette question, c'est que la question de la sobriété est tout à fait légitime. C'est qu'on peut vraiment voir ce dont on a besoin. Et j'insiste, individuellement et collectivement. Il y a aussi un autre travers de la société qui est de renvoyer à la responsabilité individuelle les causes soit du changement climatique, soit des problèmes de consommation énergétique. Effectivement, il y a une part individuelle, mais il y a aussi une part collective. Je peux donner des exemples. Hein. La sobriété, dans la sobriété d'usage, c'est clairement éteindre la lumière quand on n'en a pas besoin. Ça, c'est une sobriété d'usage. On a aussi ce qu'on appelle des sobriétés qui vont être plus dimensionnelles. C'est avoir une seule personne dans une voiture pour se déplacer. Même si on fait toute l'efficacité énergétique sur la voiture, il n'y a toujours qu'une seule personne dedans. On met deux personnes dedans sans rien faire techniquement. On a divisé par deux la consommation unitaire pour le service rendu qui est de se déplacer. C'est des petits exemples. Après, au niveau collectif, on va avoir tous les services collectifs, éventuellement sur l'éclairage public, un exemple relativement connu. Qui est que à partir d'une certaine heure, il n'y a plus grand monde qui circule et qu'on a équipé, et ça c'est une grande révolution, on a équipé les voitures de phare qui fait qu'on peut couper la lumière dans beaucoup d'endroits parce qu'on voit encore qu'il y a des phares sur les voitures. Enfin, je le dis de manière un petit peu caustique comme ça parce que c'est des arguments qui peuvent revenir. La sobriété questionne le fond culturel, donc elle dérange, forcément. En première approche, on n'a pas forcément envie d'aborder ces questions-là qui peuvent vite passer pour de la restriction, surtout dans une société de consommation qui glorifie le toujours plus. L'idée, c'est plutôt d'un toujours mieux, un mieux qui n'est pas un plus. Voilà. Et c'est de se libérer en fait, de certaines addictions. On peut aussi prendre un peu cet imaginaire de l'addiction au niveau de l'énergie. On est une société qui est complètement addicte à l'énergie. Et dans nos comportements individuels, on l'est aussi. Alors, en prendre conscience, c'est un petit peu comme le début du sevrage. Et on peut commencer à trouver des solutions et à créer des imaginaires. Et je suis très content d'avoir été invité dans le cadre des imaginales. Parce que pour moi, l'approche de Negawatt, c'est un travail dans l'imaginaire. C'est vraiment un travail de décolonisation de l'imaginaire, beaucoup plus qu'un travail technique. Alors, il se trouve qu'on est tous, plus ou moins, au sein de Negawatt, des ingénieurs, des gens travaillant dans l'énergie, dans le bâtiment. Mais si on a créé cette association, c'est parce qu'on a bien vu que c'est pas dans une approche technique qu'on pourrait trouver des solutions, mais dans une approche beaucoup plus prospective, culturelle et basée sur le réel plutôt que sur une fuite. Voilà.
Alors, moi, je voudrais là interroger le politique, le regard du politique, justement, puisque on a parlé tout à l'heure de collectif d'éclairage public, et donc là, on va être au niveau de la collectivité évidemment, puisque les citoyens vont élire des gens pour s'occuper de cette collectivité. Donc, Françoise Fleury, en tant que mairesse de la commune de Desvillers, donc j'ai lu que vous étiez palmarès climat 2011 en catégorie commune de plus de 10 000 habitants pour un certain nombre d'actions en faveur d'énergie plus propre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour justement faire évoluer les choses dans sa commune? Quel programme on peut avoir et comment on peut faire participer les administrés, les citoyens à ce type de projet?
Merci. Alors déjà, il y a deux axes. Et c'est là que le SCOT, hein, le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, nous aide. Parce que ça nous donne un cadre, déjà au niveau de l'élaboration des documents d'urbanisme. Parce que qui dit économie, de déplacement, etc. Et le SCOT va tout à fait dans ce sens-là. En privilégiant, en obligeant les communes à densifier l'enveloppe bâtie, à ne pas faire des villages qui vont s'éparpiller le long des routes, en privilégiant aussi, là maintenant qui va être en révision, aussi toute une politique énergétique justement, et les cheminements d'eau, enfin toutes ces choses-là. Alors au niveau d'une commune, donc quand on élabore notre document d'urbanisme, on doit être en conformité avec ce que préconise le SCOT. Donc je ne vous donne pas tous les détails, mais j'en ai donné quelques-uns. Et puis je pense qu'on a aussi un rôle pédagogique auprès de nos habitants, justement, pour motiver des actions, comme vous disiez, éteindre la lumière quand il n'y a pas besoin. Et en cela, le SCOT a continué de nous aider, puisqu'effectivement, on a été prix climat du SCOT pour diverses actions. Alors je vais en citer quelques-unes, mais très tout vite, quoi, pour pas... À Desvillers, par exemple, on a une chaufferie bois. Des énergies renouvelables, on a une chaufferie bois qui chauffe tout le bâtiment mairie-école, on a une crèche médiathèque, on a deux écoles, une salle d'activité, et donc on a fait le choix alors en 2001 de créer cette chaufferie quand on a réhabilité tout ce secteur-là, et depuis 2 ans on alimente notre chaufferie avec nos propres plaquettes, toujours pareil dans le sens de réduire les gaz à effet, enfin les transports, parce que les plaquettes qu'on avait venaient des Hauts-de-Vosges, enfin voilà, donc on fabrique nous-mêmes nos propres plaquettes. Et on fonctionne en autonomie avec ça. On éteint aussi l'éclairage public la nuit, voilà, de minuit à 5 heures du matin. Alors c'est vrai qu'au début, il y a eu quelques réflexions des habitants qui avaient peur de la délinquance, et finalement, tout le monde s'y est très vite... Il y a même un habitant de Desvillers, là, je pense qu'il peut en témoigner également. Tout le monde s'est très vite fait. On a aussi essayé de motiver les gens par une sensibilisation. Alors là, on a fait appel à l'espace info-énergie, et on a fait toute une campagne de... sur des thèmes variés, qui allaient des matériaux isolants, aux petits gestes économes en énergie. Enfin, on a fait 6-7 conférences différentes. On a aussi des familles qui sont impliquées toujours via le SCOT dans les familles à énergie positive. Et là, on est déjà l'année dernière, on avait une bonne équipe. Et cette année, je crois qu'on a de nouveau une bonne équipe. Alors là, c'est les gens qui concourent, entre guillemets, mais sous une forme ludique, menée par un capitaine très dynamique et aussi une femme de Desvillers. Là, c'est toute une équipe qui s'est formée comme ça, donc pour la deuxième année. Et donc, ils comptabilisent toute leur consommation, mais aussi bien les consommations d'eau, que d'énergie, que de gaz, enfin, etc. Et puis, pour en revenir au SCOT aussi, ce qui va être mis en place là aussi, ou qui est en instance, c'est une plateforme aussi, justement, pour favoriser le covoiturage. Et je pense que là aussi, c'est important. Politique énergétique pour isoler les bâtiments, enfin, voilà. Mais bon, j'ai peut-être pas tout dit parce que.
Oui, parce que je vois aussi que vous avez essayé de limiter la place de la voiture dans l'espace public pour privilégier certains modes de transport, que vous essayez aussi de faire une place au solaire à certains endroits quand c'est possible. Mm-hmm. Et notamment, vous avez aussi essayé d'avoir une certaine mixité sociale entre l'habitat, le logement, le travail, là aussi pour.
Alors là, on essaie, mais il faut changer les mentalités. Il y a du travail encore. Même au niveau des déplacements, on avait un projet d'écoquartier qui n'a pas abouti pour l'instant, et c'était pourtant un beau projet vraiment en cœur de bourg, où effectivement on limitait l'usage de la voiture. Mais même parmi les jeunes conseillers, certains disaient « Bah oui, mais alors ma voiture, voilà, laisser sa voiture ne serait-ce qu'à 200 mètres, en sachant qu'il y avait possibilité d'amener toujours la voiture devant, bien sûr, mais C'est encore pas. Là, il y a beaucoup de pédagogie à faire encore. Hein. C'est pas du tout acquis. Mais on continue, c'est pas grave.
Et alors, justement, dans votre expérience au niveau local sur votre mairie, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez fait sur une commune qui finalement est d'une moyenne importance, est-ce que ça pourrait être transposable à une échelle plus importante? Je pense notamment sur des très grandes agglomérations où là, il y a d'énormes besoins justement en termes.
Je pense encore plus facilement. Parce que ça se justifierait d'autant plus dans une grande agglomération que dans un petit village. Bon, c'est vrai. Mais oui, pourquoi pas? Pour moi, c'est vraiment réalisable. Après, c'est sûr qu'il faut les aménagements derrière, il faut créer des pistes cyclables, il faut aussi motiver les gens. Mais je pense que là, il y a tout un travail de pédagogie à faire. Mais...
Et alors, ces changements-là, est-ce qu'ils ont impacté le budget de la commune?
Non, quand on fait le calcul, les gens s'imaginent que parce qu'on prend nos plaquettes forestières, on fait une grosse économie par rapport aux énergies fossiles qu'on utilisait avant. Et en fait, non, c'est vraiment un choix de la commune. Bon, peut-être que dans 10 ou 15 ans, là, on fera vraiment. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'économie. Donc le budget, bon, on a eu quelques... Oui, mais pas... Non, c'est pas au niveau budgétaire que c'est important. Je pense que c'est au niveau des décisions, des choix qu'on fait, et puis après les faire passer, quoi.
Le plus difficile, parce que finalement, si vos administrés ne vous suivent pas, du coup, après, ça peut poser problème pour l'équipe municipale.
Bon, si on le fait, on le fait avec l'assentiment et on explique beaucoup, et je pense que c'est comme ça, je vous dis, c'est pour ça que j'insiste à dire, il faut vraiment de la pédagogie, il faut continuer à motiver les gens, et puis quelque part, bon, l'exemple des familles à énergie positive, bon, il faut beaucoup communiquer, parce que finalement, tout le monde s'y retrouve là-dedans.
On dit souvent que les jeunes générations, c'est eux qui vont... les enfants, souvent, sont assez prescripteurs dans les familles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de publicité qui passe par les enfants, pour que les enfants, après, disent « Ah, papa, maman, fais ci, fais ça, fais pas ci ». Est-ce que vous avez aussi entamé une action au niveau des scolaires?
Oui. L'an dernier, ils ont participé... je ne sais plus exactement ce que c'était, mais enfin, hein, ils ont participé... Le groupe scolaire a participé à un petit concours sur... c'était quoi, les gestes... Les gestes économes, non? C'était ça, voilà. Hein, on avait essayé de lancer un pédibus aussi, mais ça, pareil, ça n'a pas marché encore. Mais on le relancera une autre fois. Oui.
D'accord. Donc finalement, pour vous, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et est-ce que vous avez essayé d'élaborer des étapes, notamment dans la réflexion avec le SCOT, des espèces d'échelles d'intervention, ou est-ce que c'est plutôt... au cas par cas, en fonction des communes et des situations propres de chacun?
Ben, on a fait aussi, alors, et ça j'allais oublier d'en parler, on s'est inscrit dans une démarche climat pratique avec le SCOT toujours, et là effectivement on essaie de toucher entre guillemets les points les plus sensibles pour avancer dans cette politique, dans cette philosophie. Et là, effectivement, on en est à un stade où on a eu le bilan énergétique de la consommation des bâtiments communaux. Enfin, il y a d'autres actions qui ont été mises en place, qui ont été analysées. Et là, maintenant, on en est au stade où on va programmer, effectivement, mais ça sera aussi sur du long terme, parce que ça représente à la fois des investissements et des bouleversements, mais ça se fera.
Merci beaucoup. Alors justement, là, on a un petit peu parlé de cette situation intermédiaire où on essaye de mettre en place des actions pour faire évoluer les comportements, les mentalités. Si on se projette un peu plus loin dans le futur, un petit peu sur justement le demain, un monde sans carbone, Robert Belmas, donc là, dans vos travaux, il y a souvent il y a deux choses. Il y avait les terres mortes et les hypercités où on était vraiment dans un futur où les hommes abandonnent une partie, d'après ce que j'ai compris, de territoire pour les laisser revenir à leur état sauvage, et puis s'entassent dans des espèces de mégalopoles.
Là, ça va mieux ?
Non plus. Merci beaucoup.
Oui, alors, bon, quand nous avons écrit sur le thème des terres mortes et des hypercités, hein, au départ, ce n'était pas dans l'optique de la problématique énergétique. Hein, c'était plutôt une extrapolation d'un mouvement social que nous avons pu constater sur le terrain, puisque nous sommes des grands marcheurs. Et que selon les techniques de la science-fiction, nous avons extrapolé pour... en quelque sorte voir ce que ça pourrait donner si ce mouvement prenait encore plus d'extension et si les gens se déportaient de plus en plus vers les, les grandes cités en laissant les campagnes à l'abandon. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait un peu trop long. Naturellement, ça s'appuie sur un mouvement historique dont une des articulations est la Première Guerre mondiale. Alors, ça remonte très loin, mais un des points décisifs, c'est la Première Guerre mondiale. Et si on regarde de manière historique, c'est à partir de là que véritablement ce qu'on appelle un peu improprement la désertification des campagnes, puisque ce ne sont jamais que les gens qui en vont, commence. Voilà. Bon, sur le plan énergétique, nous avons peu écrit. Je pourrais y revenir tout à l'heure parce que nous avons considéré qu'il y avait des technologies qui pourraient être développées et qui pourraient apporter une solution aux problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle. Là encore, ce sont des choses que nous avons extrapolées. Il faut bien voir que nous sommes dans un contexte de science-fiction. Nous sommes des écrivains de science-fiction, nous ne sommes pas des écrivains qui font de la prédiction à court terme pour savoir ce qui va se passer demain matin. Bon, pour revenir donc un peu plus dans notre débat, moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'ont dit les intervenants précédents. En particulier, j'ai entendu des termes tels que transition raisonnée, tels que économie, etc. Ça, il est bien clair que l'énergie la moins chère, c'est encore celle qu'on ne consomme pas. Et apprendre aux gens à faire des économies, leur apprendre à faire les bons gestes, éteindre la lumière, le covoiturage. Et tout ce qui va avec, faire l'éducation des jeunes générations, c'est absolument parfait. Et puis, bon, y a un tas d'autres mesures qui vont dans le même sens. Maintenant, ce dont il faut être bien conscient, c'est que ces mesures-là ne vont pas résoudre notre problème. Ça va nous permettre de durer un peu plus longtemps avec le système que nous avons à l'heure actuelle, en faisant quelques petits aménagements ponctuels, mais ce n'est pas ça qui va résoudre, par exemple, le problème de l'extinction à terme des ressources d'énergie fossiles. Bon, je me permets de vous citer quelques chiffres que j'ai trouvés dans la presse et auxquels je vous dis tout de suite, je ne crois absolument pas. Les pétroliers nous annoncent 178 ans, je ne sais pas si vous voyez la précision, de réserves de pétrole, 233 ans en gaz, et puis du charbon, on en a pour des dizaines de siècles. Alors, c'est merveilleux, quoi, je veux dire, qu'il y ait des précognitifs déjà dans, parmi les pétroliers, puisque ça rentre tout à fait dans la science-fiction.
Il y a des auteurs de science-fiction qui s'ignorent, là.
Voilà, je crois, parce que 178 ans, c'est quand même pas rien. Ça pourrait être 200, 150, ça ferait une bonne approximation, mais 178, c'est pas rien. Donc déjà, pour arriver à sortir des chiffres comme ça, il faudrait être capable de faire un bilan de nos ressources à l'heure actuelle. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire. Ne serait-ce que parce que si vous demandez à des producteurs de pétrole, à l'Arabie Saoudite ou autres producteurs, combien il vous en reste là, ben, ils vont vous dire que ça ne me regarde pas. C'est à eux qu'ils le vendent, que si on en veut, il n'y a qu'à le payer, et puis c'est tout. Donc, déjà, la validité des chiffres est en remettre en cause, et on ne sait pas de ce côté-là très bien où se situe la limite, sauf que apparemment on essaie de nous rassurer pour nous dire que vous n'avez pas fini de passer à la pompe. Bon, le deuxième point, c'est les objectifs qui ont été fixés par diverses orientations gouvernementales. Hein, moins 20% des gaz à effet de serre sur 10 ans, 20% de diminution de la consommation d'énergie, on ne peut être qu'être d'accord, je veux dire, des choses comme ça. Et puis, augmentation de 20% également de la part des énergies renouvelables. Bon, tout ça, c'est bien, mais alors là, c'est plutôt vers mon voisin de gauche que je retourne parce que c'est lui qui est véritablement le technicien et qui connaît la chose. C'est dire qu'effectivement, il faut faire ça de manière extrêmement raisonnée et ne pas foncer tête baissée dans une solution qui pourrait apparaître toute prête, qu'elle soit dans un camp ou dans l'autre, dirais-je, hein, parce que ce soit dans le nucléaire ou dans le renouvelable total. Regardez ce qui est arrivé à l'Espagne, qui a foncé tête baissée dans les éoliennes parce que ça allait être magnifique et qui s'est retrouvé avec des déficits de 26 milliards d'euros par an. C'est quand même pas rien, ce qui fait que maintenant, il baisse un peu les bras de ce côté-là. Donc, réfléchissons bien vers où nous allons et soyons raisonnable, justement, ayant une transition raisonnée vers certains types d'énergie. Un point qui va être intéressant à observer à l'heure actuelle, c'est en particulier le cas de l'Allemagne. L'Allemagne dit, nous sortons du nucléaire. Parfait. Qu'est-ce que nous faisons? Nous activons des centrales à charbon. Alors là, pour ce qui est de la baisse des gaz à effet de serre, bravo. Ils sont en train de devenir les premiers pollueurs d'Europe. Donc, pour des raisons qui sont purement politiques, parce que derrière, il y a la volonté de satisfaire certains mouvements politiques allemands, voilà quels sont les choix qui peuvent se révéler très négatifs à terme, qui peuvent être faits. Donc, mon opinion, ce serait de dire prudence, même si les pétroliers exagèrent ou sortent des chiffres trafiqués, on a quand même un peu de temps devant nous. Faisons des économies, c'est très bien. Mettons en place, en particulier, ce à quoi je crois le plus, ce sont des systèmes d'isolation efficaces. Ça, oui, avec les surfaces de bâtiments que nous pouvons avoir, si nous isolons efficacement, ça sera encore beaucoup plus efficace qu'éteindre la lumière ou faire du covoiturage. Mais réfléchissons bien avant de prendre des décisions qui vont engager l'humanité pour des dizaines d'années à venir. Une fois qu'on sera parti dans une ligne directrice, il ne sera pas question de dire « Ah mince, on s'est trompé, on va peut-être revenir en arrière ». D'accord ? Si on décide de construire une nouvelle tranche centrale nucléaire, si on décide de développer le parc d'éoliennes, ce n'est pas des petites décisions qui vont se régler en trois coups de cuillère à peau et qui ne vont nécessiter que des investissements réduits. On s'engage dans ce cas-là et il faut le faire, encore une fois, de manière raisonnée. Voilà ce que j'aurais aimé dire. Après, on pourra peut-être reparler, si vous voulez, des solutions qu'on avait imaginées et qui commencent à pointer le nez à l'heure actuelle.
Alors, Vincent Pierret, justement, là, on part dans un avenir un peu plus lointain. Déjà, toutes les infrastructures actuelles qui servent à la production, donc qui utilisent les énergies fossiles, qu'il s'agisse de centrales à charbon, centrales nucléaires, etc., tout ce parc-là, il est vieillissant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Est-ce qu'on remplace à l'identique ou est-ce qu'on part vers autre chose? Et est-ce que finalement la solution est toujours celle qui est adoptée actuellement, d'une espèce de lieu centralisé pour la production d'une énergie collective et unique? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de totalement décentraliser la production à travers une sorte de mix énergétique basé sur un petit peu de solaire, un petit peu d'éolien, un petit peu d'hydraulique, etc., à un niveau beaucoup plus local, où chaque habitation pourrait produire une partie de sa propre énergie?
Là, vous me laissez l'heure qui suit, hein, pour répondre. Non. On pourrait faire deux boutades. La solution est dans le problème, ou alors, suivant le cadre qu'on donne à la réflexion, c'est qu'on a déjà choisi la solution. C'est un petit peu comme ça que ça peut s'expliquer. Parce qu'il y a, est super riche, votre question, parce qu'il y a énormément de choses dedans. Aujourd'hui, donc, effectivement, il y a ce que vous évoquez, surtout pour le cas français et pour l'électricité, et selon pour l'électricité, il y a le parc nucléaire qui existe, qui est vieillissant, ainsi de suite, qui nécessiterait des investissements importants. La question du renouvellement, la question des capacités de le faire, énormément de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des commissions parlementaires sur ces questions-là, sur le coût, le réel coût de l'énergie nucléaire, si on réintègre surtout toute la recherche précédente, et ainsi de suite. Pour faire extrêmement simple, c'est des circonstances historiques qui ont abouti à ça. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes, donc le cadre n'est plus le même. Voilà, ça c'est un élément de réponse. J'ai aucune envie d'entrer dans le débat sur le nucléaire. Surtout que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler, non pas à l'envers, comme on a toujours fait, c'est-à-dire sur quelles énergies il nous faut, mais quels besoins nous devons satisfaire avec de l'énergie. Comment, et ensuite, comment on la produit. J'essaie de répondre de manière un peu structurée. Pour moi, il n'y a pas à opposer les petits gestes, les grands gestes, les grandes réflexions, le aujourd'hui et le demain. Enfin, demain, c'est que la somme de tout ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Enfin, les demain, c'est toujours ce qui a été fait aujourd'hui qui génère ce qui va arriver demain. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui a autant d'importance que ce qu'on va faire en plein milieu de la transition énergétique dans 10 ou 15 ans, par exemple en appliquant le scénario négawatt. Ce qui est important, c'est de voir que la question des ressources, enfin des réserves fossiles, finalement, on s'en fout. Enfin, en fait, je vais dire autrement, c'est une catastrophe qu'il en reste autant. Parce que si on intègre le problème climatique, il y a plus de la moitié des ressources fossiles qui sont connues sur Terre, qui doivent rester dans le sol pour ne pas avoir une destruction totale du climat. Et là, je ne parle pas en science-fiction, je parle en modèle basique à 900 ppm de CO2. On tend vers Vénus à vitesse accélérée. Quoi. Voilà. C'est pas, on n'est pas sur de la science-fiction, là. On est sur les modèles les plus robustes. Alors après, la question est de savoir, est-ce qu'à 500, est-ce qu'à 550, c'est pas trop horrible ? Ça, c'est les questions qu'on a actuellement. Mais ça, c'est de toute façon la moitié du fossile qui reste dans le sol. Donc, les promoteurs des gaz de schiste, les promoteurs d'aller chercher le charbon, les promoteurs des pétroles super profonds, il n'y a que ça à leur dire. La question de combien il en reste, on s'en fout. Ça restera dans le sol. Ça, déjà, d'un point de vue imaginaire, hein, je sais prendre un point de vue un peu décalé du discours négawatt qu'on a, je dirais, habituellement dans un contexte. C'est très important parce que l'énergie a donné à l'homme la possibilité de tout transformer. Je veux dire, sans l'appel mécanique, je veux dire qu'il y a énormément d'urbanisme qui n'aurait jamais existé. Quoi. C'est évident, s'il avait fallu tout creuser à l'appel, on aurait vu les choses différemment. Le mythe d'une énergie abondante qui serait basée sur de la fission, qui serait basée sur une technologie qu'on ne connaît pas et qui donnerait une énergie infinie, c'est juste l'énergie pour anthropiser toute la Terre, c'est-à-dire modeler toute la Terre à l'image de l'homme. Le problème, c'est que comme on voit aujourd'hui qu'on modèle d'une manière qui n'est pas du tout raisonnée, quoi, qui n'est pas finalement pas tant intentionnelle que ça, on devient relativement esclave des outils techniques qui nous permettent de transformer. Voilà. Et si on prend sur ce point de vue-là, finalement, la transition énergétique devient très désirable. Et la question de notre rapport à l'énergie et de notre rapport à nos besoins devient très humanisante. Et du coup, c'est plus un projet de société désirable que il va falloir se réduire, il va falloir se contraindre. C'est beaucoup plus enthousiasmant de le prendre de ce côté-là que du côté, c'est un problème. Et là, on peut aborder l'imaginaire du côté économique où l'énergie... Je viens de l'industrie, en fait, moi, à l'origine, avant d'être dans le bâtiment. L'énergie a grandement, enfin, quasiment toujours servi à remplacer de la main-d'œuvre. Donc, dans un contexte de création d'emplois, on va vite se rendre compte que la transition énergétique contient en elle-même une grande partie des emplois que l'ébriété énergétique a détruit. C'est relativement, intuitivement, relativement évident. Et la force du scénario négawatt, dans sa valorisation économique, parce que le scénario négawatt n'est pas simplement un scénario qui dit on est écolo, on a envie de réduire les énergies sales parce qu'on n'aime pas. C'est un scénario qui cherche sur un point de sortie 2050 100% renouvelable les conditions donc, de l'indépendance énergétique, mais aussi de l'indépendance financière de la France. Et son volet économique valorise en emploi créé et aussi, il faut le dire, il faut l'assumer, il faut même le désirer à un moment. Attention, je travaille dans l'imaginaire. Il faut le désirer avec tout le respect pour les emplois qui seront détruits et immanquablement détruits dans l'industrie automobile, dans l'industrie des fossiles, éventuellement dans l'industrie du nucléaire. Il y aura des destructions d'emplois. Mais c'est des emplois aujourd'hui qui sont qualifiés. Donc il y a des reconversions dans d'autres domaines qui sont tout à fait possibles. Bon, moi, je suis un exemple. Hein. Je suis reconversion industrie automobile, efficacité énergétique. Et tout ce que je connaissais dans l'industrie automobile, ça a été un plus dans le bâtiment. Parce que je n'ai pas la même culture et du coup, j'ai abordé le problème de manière très différente. Voilà. Du micro au macro. Et en fait, on valorise à horizon 10 à 15 ans 6 à 700 000 emplois nets qui sont essentiellement dans l'efficacité énergétique, dans l'isolation des bâtiments, parce que c'est le grand chantier. Ce sera le chantier de la première partie du XXe siècle. Et c'est une création d'emplois nets. C'est-à-dire c'est déduit des emplois qui vont disparaître dans les fossiles, dans les fissiles, et une partie dans l'industrie automobile. Mais dire ça aujourd'hui, ça paraît complètement inaudible. On ne peut pas faire plus iconoclaste. Mais si on est content qu'il y ait des emplois qui soient créés, il faudra être content, j'ai le plus grand respect pour les personnes qui peuvent être concernées et tout l'accompagnement qui va avec, et que pour elles, ça soit aussi une transition, et pas une fin d'activité ou une fin de perspective. Mais ça, c'est vraiment nouveau, parce que dans l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, on a toujours cumulé les énergies, et les énergies se sont superposées. On n'a jamais, et en augmentation permanente, on n'a jamais été dans une perspective de stabilisation
et de transition. C'est-à-dire transition, définition étymologique, c'est arrêter certaines choses pour faire autre chose. Donc c'est très important, il y a peut-être un deuil à faire là-dessus. Il n'y a pas à faire un procès de nos ancêtres, ainsi de suite. Par contre, aujourd'hui, il y a une capacité d'agir de chacun. Le scénario Negawatt le prouve. Aujourd'hui, c'est certainement le scénario le plus robuste qui existe au niveau de la transition énergétique en France, alors qu'il est issu d'une association. Alors, une association d'experts d'énergie, certes, mais c'est un produit citoyen qui est offert dans le débat sur la transition énergétique. Voilà. J'essaie de résumer un petit peu, parce que si on reste sur les grands principes, sobriété, efficacité, renouvelable, ça semble gentil comme ça. Mais derrière, j'incite à vous documenter sur le scénario. Alors il y a deux ouvrages qui en sont issus. Il y a des choses sur Internet qui sont gratuites, téléchargeables, il n'y a aucun souci. Il y a Changeons d'énergie, donc il y a le petit qui est absolument pour tout le monde, qui est plus l'explication de beaucoup mieux dit que ce que j'ai essayé de raconter en peu de temps. Et le manifeste qui lui est complètement détaillé avec tous les graphiques, avec tous les chiffres, et le débat avec Negawatt est complètement ouvert. C'est-à-dire n'importe qui veut contribuer, qui veut questionner, est le bienvenu pour augmenter encore la robustesse de ce scénario. C'est un scénario, celui-là, qui n'a absolument rien à cacher, parce que c'est une contribution citoyenne. Il n'y a aucun intérêt derrière. Le lobby du Negawatt, je ne sais pas si vous le savez, vous avez défini le Negawatt tout à l'heure. C'est l'énergie la moins chère et la plus écologique, c'est celle qu'on n'a pas besoin de produire. C'est ça, à l'origine, la définition du Negawatt. Donc, le Negawatt, c'est le lobby de l'énergie qu'on n'a pas à consommer.
Alors, François Soulery va devoir nous quitter bientôt. J'avais une dernière question à poser, justement, avant que vous partiez. On parlait, justement, de transition, éventuellement de perte d'emploi, etc. Comment le politique travaille et anticipe, justement, ces changements, puisque là, il y a des politiques publiques à mettre en place, notamment pour prendre en charge les personnes qui auront perdu un emploi, faciliter la transition vers un autre emploi. Est-ce que ça, c'est déjà réfléchi ou est-ce que ça reste encore à un niveau un peu vague pour les politiques ?
Écoutez, je vais vous répondre parce que moi, j'ai un fils qui est directement concerné. Il est au chômage actuellement et là, il vient de refaire une formation d'isolation thermique par l'extérieur. Et j'en parlais avant qu'on ne commence, puisqu'on parle d'isolation. Il a envoyé je ne sais combien de CV et de lettres. Et toutes les réponses sont négatives, donc il faut que ça démarre, quoi. Quelque part, il va falloir que ça démarre, ça, parce que quand il a fait cette formation complémentaire, à l'origine, il est tailleur de pierre, mais quand il a fait cette formation, parce que taille de pierre, patrimoine, c'est pareil, c'est un petit peu, ça n'intéresse plus grand monde, malheureusement, aujourd'hui. Donc, on lui a proposé, et finalement, en lui disant, y aura du travail derrière, mais voilà, les mois passent, et il n'y a pas plus de travail. Donc là, je crois que le politique, il va falloir, qu'il impulse quelque chose. Mais il y a aussi toute la politique qui peut être mise en place au niveau tant de la communauté d'agglo que du SCOT, d'aider aussi les particuliers, donc pour lancer toute cette grande machine, d'aider financièrement les particuliers à investir pour des travaux de rénovation énergétique de leur propriété, de leur bâtiment. Voilà. Donc là, oui, le politique, faut qu'il bouge aussi, il faut que ça avance, quoi.
D'accord. Donc on va vous laisser partir parce que j'ai cru comprendre que vous aviez des impératifs. Et puis on va donc pouvoir continuer le débat. Donc je crois, Robert, que tu voulais intervenir. Merci beaucoup.
Oui, alors bon, là c'était pour parler de toujours quelque chose qui est dans le même sujet, mais en changeant un peu d'optique. On a parlé tout à l'heure d'économie d'énergie, bon, d'isolation, les bons gestes, les bonnes pratiques, on ne peut qu'être d'accord. Ceci dit, il y a des solutions, on va dire, plus avancées, plus technologiques, qui pourraient permettre de faire, à terme, de très importantes économies. Bon, nous, c'est ce qu'on avait pris en compte dans nos écrits, que ce soit les chroniques des terres mortes ou épicentres. C'était ce qu'on appelait le stockage énergétique par suprabatterie. Alors, le concept repose sur celui de supraconducteur. Ce n'est pas un concept nouveau, ça a été découvert en 1911. Les gens se sont aperçus qu'à très basse température, certains matériaux, des alliages en particulier, permettaient de conduire l'électricité avec une résistance quasi nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie lorsqu'on utilise ces matériaux pour conduire l'électricité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces matériaux, les électrons se déplacent un peu de manière balistique, comme dans un guide d'ondes. Et ça, ça permettrait déjà de faire des économies extrêmement importantes au niveau du transport électrique par les lignes EDF que nous avons à l'heure actuelle. Je vous donne un exemple. Supposons que nous soyons capables de mettre au point un tel matériau supraconducteur pour faire des câbles. Eh bien, tout le monde voit bien ce que sont les grandes lignes haute tension EDF. Imaginez une triple ligne avec les grands pylônes là, qui ressemblent à des sortes de robots gigantesques là, et puis avec leurs fils. En gros, l'encombrement, c'est 180 mètres au sol, 40 mètres en hauteur. Vous pourriez remplacer ça par une ligne enterrée avec un câble qui aurait un mètre de diamètre. Et à ce moment-là, vous n'avez plus les pylônes, vous n'avez plus les perpes, et vous n'avez plus les câbles, ni tous les câbles suspendus, ni tous les problèmes que ça peut poser en cas d'incident climatique ou autre. Le seul problème avec les supraconducteurs, c'est qu'ils ne fonctionnent qu'à très basse température. Alors, c'était inenvisageable au début, c'était des curiosités de laboratoire, parce qu'il fallait descendre à des températures de moins de 150 degrés, voire plus bas encore. Mais récemment, il y a certains matériaux qui deviennent qu'on a découvert, qu'on a mis au point, qui deviennent ce qu'on appelle les cupranes, qui deviennent supraconducteurs à des températures de moins 135 degrés. Vous pouvez considérer que c'est encore très bas, sauf que c'est dans la gamme de température d'une technologie qu'on maîtrise très bien, qui est la production d'azote liquide. Et donc, par rapport à de gigantesques lignes électriques, les gens commencent à s'interroger sur le fait que, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir de tels matériaux avec des stations de cryogénisation qui seraient régulièrement espacées? Est-ce que ça ne coûterait pas moins cher? Est-ce que ça ne permettrait pas de résoudre déjà un certain nombre de problèmes énergétiques et surtout d'économies d'énergie? Bon, excusez-moi, ça fait une longue digression un peu ennuyeuse, mais je voulais en venir à ce dont je voulais parler au départ, qui est le problème du stockage de l'énergie. Si on savait bien stocker l'énergie, ça résoudrait déjà un grand nombre de nos problèmes, parce que on pourrait faire fonctionner certaines installations en continu pour stocker, puis après éventuellement les arrêter quand on n'en a plus besoin, et ainsi de suite. On pourrait quand même optimiser beaucoup plus notre production énergétique. Et les supraconducteurs permettent de faire des stockages extrêmement performants d'énergie, puisque quand on fait circuler des électrons dans un supraconducteur, il n'y a pas de perte. Donc si vous chargez une bobine de supraconducteur, ce qu'on appelle un tor supraconducteur, eh bien, ensuite, si vous le déconnectez, eh bien, l'énergie reste dedans, elle ne se perd pas comme elle pourrait se perdre avec une batterie classique, hein, qu'on recharge sur le secteur, les batteries de voiture, typiquement. Et ça permettrait de faire des stockages d'énergie, puisqu'après, ce tor, on peut le connecter sur un circuit et récupérer toute l'énergie que l'on a stockée dedans. C'était l'idée que nous avions utilisée dans nos écrits pour dire qu'il y avait des solutions possibles. Naturellement, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça peut contribuer à les résoudre. Voilà, c'était donc le petit complément que je voulais faire.
Les Occidentaux me font l'impression d'être des gens qui se sont gavés dans un banquet pendant 100 ans, et qui disent, finalement, c'est pas bien de trop manger, et qui demandent le reste de l'humanité, qui, eux, accèdent simplement au banquet, de ne pas manger non plus. Ce qui va être très, très compliqué, parce que nous avons quand même réussi à exporter notre modèle social, en fait, au monde entier, et que le modèle social, actuellement, il est en train de se développer dans les pays comme l'Inde ou la Chine, qui représentent beaucoup plus que l'Europe, déjà, rien qu'à ces deux pays, la moitié de l'humanité, quasiment. Les Occidentaux, c'est des grands hypocrites parce que sous prétexte d'énergie, font des guerres terrifiantes un peu partout dans le monde pour contrôler les dernières réserves, parce qu'on sait jamais, on peut toujours en avoir besoin. Il me semble qu'on ne peut pas dissocier le reste de l'humanité de la réflexion écologique globale, et que surtout, il faut se décoller de l'idée que effectivement le matériel ou la consommation de kilowatts fait le bonheur, parce que c'est faux. Et une grande partie, 75 ou 80% de l'humanité est persuadée que c'est posséder qui fait le bonheur, c'est-à-dire avoir le 4x4, avoir la climatisation, avoir ceci, avoir cela, donc une sorte de surenchère technologique extrêmement gourmande en énergie, qui fait que ce que nous disait fort, nous, paraissent un peu dérisoires en Occident. Bon, la commune, c'est super. Vu moins, on a des poubelles, on trie les poubelles, c'est super. On éteint les lumières, c'est super. Mais d'un autre côté, à l'autre bout du monde, on s'en fout complètement. Vous êtes déjà allé en Inde ou en Chine. Et pour vous rendre compte que finalement, le problème énergétique ou l'économie d'énergie est vraiment le cadet, le dernier de leurs soucis. Ce qu'ils veulent, c'est le dernier 4x4 machin et le truc comme ça. Bon. Alors, il me semble qu'il faut vraiment associer le monde entier à cette réflexion-là et non pas jouer les Cassandres en se préservant les dernières réserves énergétiques. Il me semble aussi que ce qui est. Alors, vous aviez mille fois raison tout à l'heure de dire qu'il fallait réfléchir de façon globale, parce que les économies, c'est bien, mais il y a une réflexion globale qui est de retourner vers l'autarcie ou l'autonomie maximum pour chacun dans le monde. C'est-à-dire que les populations des cités devraient être capables de se nourrir sur un rayon très très faible autour, ce qui éviterait considérablement le problème des transports, etc. Se développer tout ça, même les systèmes énergétiques, les développer peut-être sur des petits axes comme ça, des petites communautés qui subviennent aux besoins de la communauté. Et tant qu'on n'aura pas cette réflexion globale, à mon avis, tant qu'on ne se décollera pas de cette espèce de schéma culturel qui est que nous possédons donc nous sommes heureux, ce qui est archi faux, parce que nous possédons aussi les médicaments pour nous montrer à quel point nous sommes malheureux, on n'arrivera pas à avancer, à mon avis, parce qu'il y aura toujours quelque part dans le monde quelqu'un qui voudra posséder comme nous l'avons fait pendant des siècles, hein, en fait, finalement. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas s'épargner une réflexion globale sur l'énergie. Et ce n'est des solutions on peut certainement trouver, mais il faut associer tout le monde à cette espèce de nouveau partage et de nouvelles redéfinitions des choses. Sinon, à mon avis, on ne pourra pas s'en sortir.
Alors, est-ce que finalement, cette réflexion-là ne va pas se heurter, puisqu'on parle en termes mondiaux Pierre, tu parlais de système culturel. On se heurte au système économique, où là, il y a vraiment tout un raisonnement économique.
Il est lié au culturel. Il est lié à l'idée que le matériel est la clé du bonheur.
Moi, je crois que c'est plus grave que ça. Il est lié au fait qu'un certain nombre de gens ont mis en place des systèmes, et notamment je pense à tout le système financier international qui a été complètement dérégulé, et qui fait que, quand on regarde dans le raisonnement économique, et là c'est l'économiste qui parle, on produit plus de valeur ajoutée à réparer les dégâts d'une pollution, en termes économiques, qu'à éviter cette pollution. Mmh. Et où donc, finalement, ce système-là s'auto-alimente. Donc, il faut, pour alimenter tout le système financier mondial, avoir énormément d'exportations, du transport, de l'activité, et aller dans le toujours plus, hein, puisque quand même...
Oui, mais quelle est la finalité de l'économie, sinon qu'au bout, des tuyaux, il y a des gens qui veulent de l'argent, tout le temps, et plus d'argent. Et que donc, tant qu'il y aura cette idée que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et ça l'est d'ailleurs, ou c'est le bonheur absolu, et bien on se heurtera toujours des systèmes économiques totalement injustes et totalement...
Oui, et donc justement, comment est-ce qu'on peut arriver à attaquer ces raisonnements-là? C'est ça la difficulté.
Ben, il y a un gros effort de réflexion sur la nature même de l'être humain et de ce que cherche l'être humain. Et je pense que c'est là où les auteurs de science-fiction ont toute leur place. C'est parce qu'eux apportent cette pierre à la réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons, nous, l'humanité? Qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que l'humain? Et on ne peut pas s'épargner cette réflexion, parce que sinon, on va toujours posséder lâcher la proie pour l'ombre, et l'ombre, une sorte de bonheur complètement factice. Et je pense que ça passe par une réflexion philosophique très très forte, enfin très importante, à mon avis. Peut-être un peu illusoire aussi, mais bon.
Et est-ce que Negawatt a un petit peu intégré ces questions-là dans sa réflexion?
Vous ne pourriez pas imaginer toutes les questions qu'on s'est posées. Je voudrais vous répondre. Et en fait, je pense que au travers de l'énergie et du rapport à l'énergie, on a une bonne entrée sur toute l'humanité, enfin sur une partie de l'humanité, ou de qu'est-ce que l'humain, quoi. Et on peut l'aborder de manière très philosophique, très profondément, en fait, très frontalement, là, comme vous le questionnez. Là, et moi, je vous rejoins complètement. On peut le faire comme ça. Et on peut aussi l'aborder sur d'autres facettes, toujours par l'entrée de l'énergie. Et c'est l'ambition de Negawatt. Et c'est de se dire que si cette autre manière, cet autre rapport à l'énergie, cette autre société possible, dans un rapport pacifié à l'énergie, est possible et qu'on est capable de le figurer quelque part, même si on commence pour rassurer, parce qu'on est, on a toujours beaucoup de détracteurs, qu'on ne fait appel à aucune technologie de science-fiction, c'est-à-dire qu'on se base que sur des technologies qui existent déjà. Voilà. Mais on dit, la phrase d'après, chemin faisant, de nouvelles technologies seront développées, ou se perfectionneront, ou amèneront d'autres solutions. Mais nous ne croyons pas dans la technique pour apporter les solutions, mais nous croyons que des techniques arriveront quand nous serons sur le chemin, en chemin. Voilà. C'est très important. Hein. Et on commence par dire, voilà, pas de technique science-fiction. Par contre, ce qui est certain, c'est que faire un effort de scénario et après de s'amuser sur un réseau électrique à l'équilibrer heure par heure avec des moyens de simulation numérique d'ici à 2050 pour montrer que la réduction des moyens fossiles et fissiles compensée par l'augmentation d'un mix décentralisé d'énergie renouvelable de tous les types qui ont été indiqués jusqu'à 2050 avec la réduction des consommations par l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et la substitution d'un certain nombre d'usages est possible. C'est peut-être pas de la science-fiction, mais c'est travailler quand même profondément l'imaginaire. Et aujourd'hui, de plus en plus d'élus, ne le crient peut-être pas très fort, mais ont quand même constaté que la croissance est nulle, voire négative, depuis un certain temps, et que la seule manière de faire de l'économie, ou de l'économie réelle, parce que maintenant, on n'en a rien dans les euphémismes. Les mots étaient tellement vidés de leur substance. L'économie est tellement devenue financiarisation qu'on en vient à dire l'économie réelle, pour ne pas dire en fait ce qu'était l'économie avant, il y a 10 ou 15 ans. La seule manière de faire de l'économie, ça va être de faire la transition énergétique, qui du coup a été affublée de transition écologique et ou de transition économique, enfin de possibilité de continuer à faire de l'économie. Relocalisation de l'économie. Alors évidemment, M. Montebourg, il veut tout relocaliser, éventuellement même l'armement et des choses comme ça. Après, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut produire. Mais l'idée même de se dire qu'on veut produire localement est totalement en ligne avec la transition énergétique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir produire localement ? Il va falloir produire les outils et les produits de la transition énergétique. Il va falloir produire une quantité invraisemblable d'isolants. Il va falloir produire une quantité impressionnante de capteurs solaires, d'éoliennes. J'ai travaillé dans ma transition personnelle, je fais toujours un peu l'aller-retour. Donc pour passer de l'industrie automobile, ils ne voulaient pas me lâcher à quelque chose qui m'intéressait plus. Je suis passé dans une industrie de mécanique plus classique qui fabriquait des composants pour l'industrie, des accouplements, moteurs, des boîtes de vitesse, mais pour l'industrie. Et elle avait une histoire assez étonnante, c'était une entreprise locale dans les Vosges. À un moment, elle avait une usine jumelle qui était en Belgique, et par le jeu des fusions, acquisitions, rachats invraisemblables, elle s'est retrouvée séparée. Pourquoi ? Parce que l'usine belge, en fait, elle était rentrée dans la fabrication des réducteurs d'éoliennes. Et c'était plus du tout la branche en fait, du groupe américain qui avait racheté, donc il l'avait séparée. Moi, j'étais dans une usine qui tombait en morceaux au niveau économique. Et à côté de ça, l'usine qui avait été liée, qui était quasiment la même 10 ou 15 ans avant, il doublait la surface. Parce qu'à côté, ils construisaient pour suivre le développement de l'éolien. Si les Allemands sont rentrés, parlons un peu des Allemands, j'allais dire un peu des fantasmes sur le fait que les Allemands vont se gaver de charbon pour arrêter le nucléaire. Ils ont déjà une part du nucléaire dans leur mix qui n'a rien à voir avec le niveau français. Ils étaient à moins de 30% et c'était déclinant déjà depuis un certain temps. Ils ont surtout développé fortement le parc renouvelable. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, les Allemands ont plus d'éoliennes que ce qu'on prévoit dans le scénario Négawatt en 2050 en France. C'est-à-dire qu'on parle de développement raisonné, ils sont quasiment au maximum de ce qu'ils peuvent installer en termes de champs éoliens. Par contre, pourquoi ils sont rentrés il y a plus de 10 ans dans ce développement massif des énergies renouvelables, c'est essentiellement, pas forcément dit comme ça, pour sauver leur PME mécanique qui est le cœur du tissu industriel allemand. Et c'est réussi. Et en même temps, ils ont créé des fleurons, forcément. Parce qu'en faisant, on devient meilleur, on maîtrise les coûts. C'est ça, la transition. Voilà. Dans l'exemple allemand, il y a plein de choses intéressantes. Il y a aussi des choses qui sont beaucoup moins intéressantes. Les Allemands, sur la sobriété, ne sont pas là où ils pourraient être. Les déplacements, ils ne sont pas là où ils pourraient être. Ils ont surtout réussi le développement des renouvelables. Voilà. Alors, effectivement, en arrêtant le programme nucléaire, ils vont se mettre un aiguillon. Le risque du passage sur le charbon existe, enfin, de continuer à être élevé en charbon, ils étaient élevés en charbon, la planète entière est élevée en charbon. Plus de 50%, 60% de l'électricité dans le monde est produite sur du charbon, l'énorme restant est produit sur du fuel, une petite partie sur le nucléaire, de mémoire c'est moins d'une dizaine de pourcents à l'échelle de la planète, et l'hydraulique est déjà devant. Voilà. L'énergie renouvelable la plus ancienne, celle qui a fait l'électrification et l'industrialisation de la France, l'énergie hydraulique, reste au même niveau en fait. Hein. Voilà. Donc il ne faut pas, rentrer avec des idéologies sur ces questions-là, ni des fantasmes. Il y a des gens aussi qui essaient de faire peur, parce que quand on lâche, transition c'est lâcher quelque chose, il y a forcément un deuil à un moment. Moi j'ai été fan du nucléaire, comme c'est pas permis, comme un truc, quand j'ai découvert la physique nucléaire en formation d'ingénieur, je trouvais ça absolument génial. Et puis après j'ai vu des trucs moins génial. Et voilà, je sais comment ça fonctionne, donc c'est pas un mythe pour moi. Et je pense que c'est important de faire œuvre de pédagogie dans les deux sens, sur les alternatives et aussi sur la réalité du système tel qu'il est, sans le condamner, comme étant foncièrement été pensé pour être contre l'humanité. Non, il y a eu tous les ingénieurs qui ont travaillé là-dedans avaient une vision radieuse de l'avenir. Quelque part,
c'est que le débat était occulté sur le nucléaire.
Bien sûr. Non, je parle de ceux qui de l'intérieur. J'ai dit que je voulais pas en parler, en fait.
On en parle pas, alors.
Voilà. Non, mais pas parce que c'est un sujet qui serait tabou, hein. Il faut en parler. Mais aujourd'hui, on parle de la transition. Dans la transition, il n'y a plus de fissile à un moment. Voilà. Tout simplement parce que aujourd'hui, le fissile, on va le chercher en Afrique.
C'est pour le nucléaire, bien sûr. Oui, voilà, on est dans les mines du Niger ou dans les trucs comme ça. Quoi.
Donc, c'est une indépendance énergétique très, très sommaire, quelque part. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu un petit peu à votre question sur les productions d'énergie, sur la décentralisation. L'Allemagne a aussi prouvé, parce qu'elle a monté un haut taux de renouvelables sur son réseau, qu'on peut avoir des simulations numériques tout à fait fiables sur le mix. En fait. Et pendant longtemps, on a pensé que ça reste un argument de dire que les réseaux électriques vont devoir être renforcés de manière phénoménale. Oui, il y aura des choses à faire, mais c'est loin d'être aussi rédhibitoire qu'il n'y paraît. Voilà. Donc, mais ça, le passage au 100% renouvelable, c'est d'aujourd'hui à 2050. Hein, c'est pas en deux jours. Quoi. Je connais des réseaux électriques qui ont absorbé en beaucoup moins de temps, beaucoup plus de puissance. Par exemple, quand à la mise en place du parc.
Alors quand on parle justement de changer nos consommations, il y a forcément tout ce qui concerne le transport, les déplacements qui consomment énormément d'énergie. Et donc, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, avec notamment tout le raisonnement des locavores qui souhaitent situer leur consommation dans un rayon. C'est un petit peu ce que tu disais, Pierre. Et ça, c'est les hypercités qui me faisaient penser tout à l'heure. Ça va redessiner complètement le visage de la ville.
Ça peut redessiner effectivement le visage de la ville. Et là aussi, il faudra peut-être le faire de manière raisonnée. Hein. Faut pas, dans notre roman, les hypercités, c'est pas des endroits qui sont très agréables à habiter. Hein. De toute façon, ça n'est jamais encore qu'une extrapolation de ce qu'on connaît à l'heure actuelle, mais c'est vraiment le système des ceintures. Et de plus en plus grande, et c'est pas non plus vraiment un modèle qui moi me tenterait. Je suis désolé de le dire, je suis pas un bon citoyen, j'habite une maison isolée à la campagne, j'ai pas l'intention de changer.
Mais justement, est-ce qu'on va pas aller sur des villes plus petites, plus à taille humaine et plus autosuffisantes?
C'est ce que tout le monde suggère. Si on rassemble des villes. Des villes petites, de taille humaine, il faut s'en méfier aussi, quoi, je veux dire. À l'heure actuelle, la dame qui était là parlait tout à l'heure de lois de règlements, en tout cas locaux, sur l'édification de lotissements. Hein, on leur demande justement de se rassembler et pas qu'un aille se mettre là-bas, l'autre là-bas, et ainsi de suite, parce que ça permet de limiter les transports, ça permet de d'économie. Alors ce genre de choses-là, on commence à le voir apparaître. Hein. Nous habitons la campagne, on commence à le voir un peu partout. Dans les petites agglomérations, on voit des lotissements qui apparaissent comme ça, effectivement, avec des maisons relativement resserrées, où les gens n'ont pas l'air d'être plus malheureux qu'ailleurs. Simplement, Il faut voir que dans ces petites agglomérations, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de commerce, parce qu'à l'heure actuelle, ils se cassent la figure, il n'y a pas beaucoup de débouchés excusez-moi, culturels, il n'y a pas beaucoup de d'animation. Et finalement, tant qu'on se trouve dans ces nouveaux lotissements avec principalement des jeunes couples qui viennent là pour des raisons de coût, tout se passe bien, excusez-moi, mais quand leurs enfants vont grandir, vont vieillir, on va se retrouver là avec des zones, appelons ça comme par le mot, et ça aussi c'est une chose qu'il faut considérer de manière raisonnée, parce que des jeunes vont se trouver là, désœuvrés, sans rien faire, savoir pas, ne sachant pas comment organiser leur loisir, et ça, on sait ce que ça donne. Donc, sur cette urbanisation, sur ces projets qui, sur le papier, d'un point de vue énergétique, sont très bien, il faut réfléchir aux facteurs humains. Je vous prie de m'excuser.
Oui, donc finalement, je pense que c'est un petit peu ce qui va nous servir de conclusion au débat, parce que je vois qu'on est quasiment arrivé à la fin du temps qui nous est imparti, et si on veut laisser la place à quelques questions. Donc finalement, ça va être l'humain qui va devoir guider toute cette réflexion-là, et revenons à l'échelle humaine et à la satisfaction des vrais besoins humains pour finalement aller vers un futur un peu moins pollué et un peu plus raisonné.
Plus humain.
D'accord sur ce point.
Bien, en tout cas, je tiens à remercier nos intervenants. Et est-ce qu'il y a des questions au niveau du public ? Oui.
Oui, je voulais enchaîner par rapport à monsieur disait tout à l'heure, que fait l'humain ? Et effectivement, je viens de voir un rapport de... attendez voir. C'est un rapport de l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire. C'est un rapport qui date en fait de 2007, qu'ils ont gardé secret. Et où ils ont fait des calculs pour savoir combien ça coûtera un méga accident nucléaire. Vous n'imaginez pas, 5 800 milliards. 5 800 milliards. Et il y a même un petit...
Un petit peu d'optimisme à la fin du débat ne fait pas de mal, n'est-ce pas?
Je me rappelle, oui. Il y a une remarque très cynique qui dit que la plus grosse victime de cet accident, c'est l'économie française. Voilà. Et ça, c'est aussi parce que, supposons qu'il y a un accident près de Bordeaux, ben, plus personne veut acheter du vin, pas seulement de Bordeaux, mais aussi d'Alsace. Parce que ceux qui habitent en fin fond de Texas, ben, la France, c'est la France, c'est pas, ils ne savent pas faire la différence hein, entre le Bordeaux et le vin d'Alsace. Donc, tous nos produits, ils ne vont plus être achetés. Donc ça, c'est le dégât économique. Ce que je voulais demander à Vincent, quelle est la différence essentielle entre votre projection à vous et ce que le NPA a produit il y a quelques années déjà pour sortir du nucléaire dans à peu près 10 ans.
Le NPA,
oui. NPA. Oui. Donc c'est
d'accord,
une...
D'accord. Oui, je vois la question. Oui, voilà. Juste un mot sur... Enfin, je crois que tout le monde dans la salle, n'importe qui a ou fait l'expérience de pensée ou qui n'a pas dormi depuis l'accident de Fukushima, a une idée de ce que c'est un accident nucléaire majeur. Voilà. Et encore, ça pourrait être encore mieux que Fukushima. Enfin, voilà. Donc, genre, la question là-dessus, genre, c'est pour moi, pas d'essayer de la chiffrer, ainsi de suite, c'est un réacteur qui serait en Europe centrale
dans les régions les plus peuplées du monde, il n'y a plus d'économie. Quoi. Voilà. C'est même pas, ça coûte cher à l'économie, il n'y a plus d'économie. Parce que c'est, si la moitié de la France doit habiter sur l'autre moitié de la France, comme ce qui s'est passé à Fukushima, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, je pense que tout le monde le sait, en fait, quelque part. Maintenant, on n'y pense pas tous les jours. Après, dans le scénario négawatt, la sortie du nucléaire fait partie des objectifs, mais moi je le dis à titre personnel, hein, c'est traiter le nucléaire par le mépris, c'est-à-dire tout simplement on n'en a plus besoin. C'est pas qu'on a créé le scénario pour sortir du nucléaire, le scénario NPR en 10 ans, et c'est ça, les scénarios de l'association sortir du nucléaire sont des scénarios construits avec comme objectif principal de sortir du nucléaire en dehors de toute autre considération. C'est intéressant d'y réfléchir, mais pour moi ils sont un peu insuffisants dans le sens où le scénario nucléaire n'est pas du tout construit comme ça. Il a un plan qui considère une sortie à l'horizon 2033-2035 du nucléaire, avec tout un chapitre qui explique les raisons pour lesquelles il ne faut pas aller trop vite, il faut avoir un certain rythme. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait la présentation du scénario, mais c'est la conséquence de tout le reste, de la sobriété, de l'efficacité, du développement des renouvelables. Voilà, ça c'est ma réponse. Je ne sais pas ce qu'il y a en détail dans le scénario NPR, mais il est évident que dans un pays qui produit 70-75% de son électricité d'origine nucléaire, on ne décrète pas de sortir du nucléaire comme ça. Ça n'a aucun sens.
C'est ce qu'on disait sur l'aspect évolution et transition raisonnée. Quand des gens décrètent qu'il faut sortir du nucléaire, que c'est uniquement leur objectif, ça n'est pas du raisonnement. Ça. Je suis désolé de le dire, c'est du fanatisme.
Oui, je pense que c'est louable de vouloir sortir du nucléaire, et je le partage totalement. Simplement, il faut mesurer les conséquences. En fait, je faisais l'analogie tout à l'heure avec l'addiction à l'énergie. Ben là, on a une addiction sur le système électrique au nucléaire, donc on ne peut pas s'en passer instantanément. Maintenant, le plus rapidement, dans l'intérêt même économique, globalement, sera le mieux, mais ça nécessite une refonte complète du système énergétique.
Mais quand on voit combien ça coûte rien qu'un accident, et que, par exemple, l'EDF ne peut pas s'assurer à plus de, je crois que c'est 91 milliards d'euros et pas plus, donc c'est de toute façon le contribuable qui va payer, et tant qu'à faire de se lancer le plus vite possible dans toutes les énergies renouvelables, ça coûterait beaucoup moins cher.
Oui. Votez négawatt.
Une autre question ?
Oui ou pas, madame, parce que si vous regardez ce qui est arrivé aux Espagnols, ça leur a coûté très cher, parce qu'ils l'ont fait de manière non raisonnée. Ce que vous dites, se précipiter dans des énergies renouvelables, ça n'est pas raisonnable. Il faut savoir qu'on engage l'avenir et qu'avant de se précipiter, il faut réfléchir vers l'endroit où on va se précipiter.
S'il vous plaît, je voulais vous demander, est-ce qu'il est utopiste, est-ce que c'est raisonnable d'envisager de limiter l'accès à l'énergie ? Soit en changeant les tarifs d'EDF, par exemple, qui sont pour l'instant proportionnels, hein, on paye au prorata de ce qu'on consomme. Alors on pourrait avoir une courbe différente, hein, une courbe exponentielle, par exemple. Ou brider carrément, vous avez consommé vos kilowattheures pour la journée, ben le compteur s'arrête, quoi. Et ça, pour l'électricité ou autre chose, on aurait un quota de fuel pour sa maison chauffée au fuel, etc. Est-ce que c'est imaginable ?
Ah non, mais c'est plus qu'imaginable, ça fait partie des mesures proposées dans le manifeste Négawatt, la tarification progressive de l'énergie, ça a failli être une loi, alors pas forcément avec tout le contenu de ce qui était proposé, je pense que c'est tout à fait souhaitable, puisqu'il y a une notion d'accès à l'énergie, comme l'accès à l'eau, il y a un minimum qui est nécessaire, et ensuite il y a des consommations qui peuvent être relativement extravagantes, et qu'il y ait une tarification progressive, ça fait partie des politiques tout à fait utile et efficace à mettre en place. Après, l'autre aspect, c'est la restriction, enfin c'est le rationnement. Là, on n'est plus dans la même société. Par contre, si la transition tarde, aujourd'hui en Afrique par exemple, hein, les réseaux électriques, ils sont gérés par le rationnement. C'est-à-dire qu'il y a de l'électricité à certains moments, puis quand il y en a trop qui tirent sur le réseau, ben, il n'y a plus d'électricité. Donc c'est connu, hein, ça existe.
Juste un mot sur, je voulais juste dire, juste un mot supplémentaire sur cet aspect-là, la rationalisation par augmentation du coût. Ce que je veux dire, c'est que ça sera profondément inégalitaire et que ça existe déjà. Le coût du fioul domestique a sévèrement augmenté et à l'heure actuelle, vous avez des gens qui n'arrivent plus à remplir leur cuve et qui ne se chauffent pas. Alors, où est l'humain là-dedans? Je pense que Pierre ne serait pas d'accord pour une telle solution. Je ne le suis pas non plus.
Pascal Corradini.
Oui, parce que ça recréerait un système de privilèges, tout simplement.
Ceux qui pourront payer rempliront leur cuve, ceux qui ne pourront pas se gâteront.
Je pose ma question. Pascal Corradini de Épinal en Transition, l'association Épinal en Transition. Monsieur Pierret parlait d'addiction à l'énergie. On parlait d'addiction à l'énergie. Il me semble que ce soit avec le nucléaire, le gaz ou quelque énergie que ce soit, et avec le renouvelable qui nous arrive, l'éolien qui va nous produire aussi beaucoup d'énergie, on restera l'humain, le citoyen aura une addiction à l'énergie. Et il me semble que même avec les scénarios de décroissance de consommation, il me semble que ce qui serait intéressant plutôt, ce sur quoi serait souhaitable d'agir, c'est sur la conscience du citoyen, sur le principe par rapport à ce que disait monsieur, l'énergie, l'argent, ça ne correspond pas, ce n'est pas directement couplé au bonheur. Donc si vous voulez, il serait souhaitable de favoriser la prise de conscience du citoyen à s'auto-limiter. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre voie et que cela pourrait se faire par des expérimentations de groupes de personnes comme la transition mise en place par Rob Hopkins en Angleterre en 2006 suggère.
Complètement d'accord, hein. Sobriété, oui, c'est la base du scénario. C'est la transition, elle ne se fera pas sans les citoyens. Ça, c'est une
ce qui induit, à mon avis, de sortir d'une vision matérialiste des choses. Mais bon,
Tout à fait. Et je pense que vous avez vraiment raison et que vous mettez là le doigt sur un des problèmes importants. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons à résoudre des problèmes technologiques. Et bon, il a été assez clairement exprimé que c'était possible. Mais de notre côté, nous avons à résoudre des problèmes comportementaux. Et que l'un sans l'autre, ça aura du mal à fonctionner. Et là, vous avez parfaitement raison. Il faut que les gens y aillent d'eux-mêmes et volontairement.
C'est ça. Oui. L'initiative volontaire me semble effectivement importante. Oui. Il n'y a pas à imposer. Il me semble que c'est pas la solution non plus. Imposer des réductions, des diminutions de consommation.
À mon sens, c'est une rencontre. C'est-à-dire que l'initiative de sobriété telle que l'initiative de transition, elle permet d'interpeller les élus pour leur demander de dire voilà, nous les citoyens nous sommes prêts à bouger, nous faisons notre part individuelle, enfin nous faisons collectivement la part individuelle qu'on peut réaliser, mais il y a une part collective qui doit être politique, qui doit être organisée. Si on attendait autant d'une loi sur la transition énergétique, c'est qu'à un moment, les deux initiatives, enfin l'initiative populaire et l'initiative politique, doivent se retrouver. Sinon, il n'y aura pas de transition. Sinon, c'est une transition à deux vitesses. Soit ça va créer comme vous l'avez indiqué, hein, ça va créer des inégalités. Si ça ne se rencontre pas, c'est toute la société qui est amenée à changer. Donc, pour moi, c'est très important que les deux se rencontrent et qu'il y ait un dialogue entre les deux. Parce que je pense que, globalement, je rencontre un certain nombre d'élus, ils ont tendance à tenir le discours inverse, c'est-à-dire que les citoyens ne sont pas prêts à bouger. Si les citoyens montrent qu'ils sont prêts à bouger, après les élus n'ont plus d'excuses pour ne pas prendre les mesures volontaristes, courageuses, nécessaires, tout ce qu'on appelle de nos voeux. Je pense que les deux sont complètement complémentaires.
C'est là où on s'aperçoit que le parti vert en France a complètement raté son truc, quoi. Enfin, c'est une abomination d'avoir à ce point dévoyé la cause écologique qui est quand même fondamentale, essentielle, et d'avoir un parti comme ça, quoi, qui nous représente. Moi, j'ai voté vert pendant des années et je suis absolument dégoûté de ce parti qui est incapable de se faire entendre pour l'intérêt commun, tout simplement, quoi.
Oui, et pour terminer, en ce qui concerne la sortie du nucléaire, les nucléocrates ont trouvé depuis peu de temps un argument en béton, et ce sont les plus écologistes, les plus verts de verts, c'est que le nucléaire n'émet pas de CO2. Ils viennent de le trouver seulement maintenant, l'argument n'était pas développé au départ. Et est-ce que ça ne va pas risquer de gêner considérablement si on envisage la sortie du nucléaire?
Ce sont les fameuses peurs à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est créer des peurs, hein, tout simplement, je pense. Et donc créer des peurs en disant si on arrête le nucléaire, on va augmenter aussi l'effet de serre, et etc., etc. Donc il n'y a pas d'alternative. Mais le nucléaire pollue, d'une façon ou d'une autre. Le nucléaire pollue, peut-être pas l'air, mais il pollue ailleurs.
Il pollue à long terme.
Il pollue à très long terme, donc il y a un côté Arche de Noé, après nous le déluge, etc. Et connaissons-nous nous survivants. Et puis, bon, on a vu avec Fukushima, avec Tchernobyl, que le nucléaire n'est pas...
Mais c'est un argument difficile à contrer à court terme, parce qu'il se présente comme plus vert que vert.
Ah bah oui, c'est assez paradoxal d'avoir...
Il se présente juste comme étant n'émettant pas de dioxyde de carbone.
Ouais.
Je veux dire, si le dioxyde de carbone, c'est un problème dans un énorme système qui est une collection de problèmes. Voilà, c'est pour ça que dans le langage... parler de société bas carbone, il y a déjà un petit peu d'idéologie derrière. Donc je parle de transition énergétique, de société sobre en énergie, parce que bas carbone met en ébriété totale énergétique. C'est compatible hein, dans le discours. Ouais, donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas réutiliser des mots finalement on ne capte pas les intentionnalités qu'il y a derrière.
Quoi. J'étais en contact à un moment avec un syndicaliste qui travaillait à Saint-Laurent-des-Eaux, la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, à côté de Chinon, je crois. Et j'ai eu des telex d'échanges entre préfet et directeur de la centrale, etc., sur les fuites de Becquerel dans la Loire. Et surtout, il ne fallait pas ébruiter parce qu'on était à 1000% au-dessus du taux autorisé. Et c'est fréquent. Donc, que le nucléaire ne pollue pas, c'est un petit peu dérisoire comme vision des choses. C'est le problème du nucléaire en France, enfin, à mon avis, c'est que la plupart de nos élus sont élevés dans le dogme nucléaire et ils ne veulent pas en déroger pour quelque raison que ce soit. Et donc on ne peut pas ouvrir le débat. Le débat est clos parce que justement, après, il y a l'argument que vous avez justement souligné, qui est celui du CO2, et qui va nous tous être sorti aussitôt et qui clôt le débat. On ne peut pas discuter. Parce que, évidemment, ce serait illusoire de croire qu'on peut arrêter le nucléaire tout de suite, c'est évident. Mais envisager une sortie à long terme, oui, ça me paraît tout à fait envisageable.
Je pense qu'on va peut-être prendre une dernière question parce qu'on va arriver au,
quand est-ce qu'on mange ?
Ah non, au terme du débat parce que là on est...
Oui, je me permets de répondre à monsieur. L'uranium, quand c'est extrait, ça demande de l'énergie, ça demande du transport. Ensuite, quand les centrales sont construites, il faut aussi faire du béton, il faut utiliser des tas de matières qui finalement génèrent du CO2. Quand les déchets sont transportés dans les, j'appelle ça des castors, et que sur les bas et sur le car, dans les gares, qu'on peut nous être contaminés sans qu'on nous a prévenus, tout ça, ça génère aussi du CO2. Donc, c'est comme l'histoire des voitures électriques qui sont soi-disant propres, mais c'est des mensonges, ça.
En fait, faut jamais s'arrêter à un des éléments du mégasystème, quoi. Parce que sinon, on va dire, avec tout le respect hein, pour les lanceurs d'alerte sur le nucléaire, on peut choisir comme sujet nucléaire et ne voir que le problème nucléaire et vouloir absolument sa peau, et je peux le comprendre et le partager. On peut vouloir faire la même chose avec le CO2 et dire le CO2 est le problème, le CO2 est le problème et je veux la peau du CO2. En fait, c'est notre rapport à l'énergie et notre rapport à la nature qui globalement est le problème. Ce qui est une hypothèse de pensée, c'est très souvent dans les assemblées, il y a toujours quelqu'un qui à la fin dit, c'est incroyable, que pour les présentations des gigawatts, on les a droit quasiment à tous les coups, qui nous sort les énergies subtiles ou les énergies du vide, ou vous l'appelez comme vous voulez, quoi. et qui dit oui, mais si on avait ça, ça résoudrait tous les problèmes. Et en fait, le fond du problème, c'est l'énergie peu chère et abondante qui permet de tout transformer. Parce que si l'exercice de pensée, je l'avais un peu initié tout à l'heure, mais j'insiste dessus, parce que j'aimerais un contre-argument à cet exercice de pensée, parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas eu, donc je continue à le penser. Si on a accès à une énergie infinie, non polluante, elle aboutira à la transformation, à l'anthropisation complète de la planète. Dans les scénarios, alors là, moi, je deviens auteur de science-fiction demain, rien qu'avec ce pitch-là, j'irai pas très loin, hein, parce que le résultat, il est garanti. Et qu'on l'appelle ITER, qu'on l'appelle l'énergie du vide, qu'on l'appelle ce qu'on veut, le résultat sera le même. Le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est une surabondance d'énergie peu chère et pratique, qui a été le pétrole essentiellement, enfin, qui est surtout le pétrole. Et si c'est pas ça qu'on identifie, si ce n'est pas de ça dont on doit se prémunir, on recommencera la même chose. Et je pense qu'on se trompe de combat à attaquer un des éléments du système. Je dirais, le monde sans le nucléaire, effectivement, il sera un tout petit peu plus tranquille, mais finalement, par rapport au changement climatique, par rapport à la trajectoire sur laquelle il est, ça ne changerait pas grand-chose. Le monde sans le CO2, si l'énergie restait abondante, il n'y aurait pas le changement climatique, mais finalement on resterait sur la même trajectoire, sur les mêmes inégalités nord-sud, les mêmes rapports d'exploitation liés aussi à ces problématiques. Donc voilà, c'est je sais que c'est pas super enthousiasmant, mais en même temps on a une marge de manœuvre, on peut s'engager dans la transition, et de toute façon la transition faite en France, faite en Occident, ne peut qu'être bénéfique au reste de la planète, parce qu'elle elle soulagera la pression sur les ressources fossiles, et à un moment, on peut entendre que ceux qui en ont quasiment pas consommé à l'échelle de l'humanité aient le droit à en consommer un petit peu pour des besoins qui sont relativement essentiels. Voilà, ça c'est
pas que vous parliez de transition, parce que l'autre jour je voyais le film de Jacques Tati, Mon oncle, qui est un film de transition vers le tout énergie. Et ça c'est étonnant de voir ça, c'est années 60, années 50-60, et c'est le tout énergie, tout électrique, tout ceci, tout cela, les bagnoles énormes et tout ça, et c'est marrant de... C'est il y a 1960 et là on est, ça fait 50 ans quoi, et on est obligé de faire complètement l'inverse maintenant. Comment ? Oui, il s'en moque, oui, bien sûr, lui il a une vision critique, mais c'est quand même réel, c'est une vision où tout le monde a acquis l'énergie maximum.
C'est une sorte d'éden qu'on nous promettait ?
Oui, c'est ça, c'est l'idée de vous allez être heureux parce que vous allez consommer plein de trucs, vous allez pouvoir allumer votre jet d'eau en permanence, le éteindre, etc. C'est drôle. Évidemment, la vision de Tati est très sarcastique parce que lui, il sait que ça ne fait pas le bonheur, en fait.
Donc voilà, je pense que ça va clore notre débat. Je tiens à remercier nos intervenants. Pour poursuivre la réflexion, je vous encourage à vous procurer les ouvrages des uns et des autres, soit dans la réflexion prospective de science-fiction, soit bien évidemment tout le travail fait par Négawatt. Et ici, sur place, sur les imaginales, vous pouvez continuer à aller réfléchir à ces choses-là en allant notamment sur le stand... et ça y est, j'ai un trou, c'est la fatigue. Le stand d'une autre terre. Voilà, ça y est, on va y revenir. Donc le stand de l'association Une autre terre, dont j'avais parlé tout à l'heure en introduction, donc il est juste à l'entrée de la bulle du livre, à côté du Magic Mirror 1. Et donc sur ce stand, quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on peut mener une réflexion ludique à travers un petit jeu. On tire un papier dans une urne et puis on réfléchit en groupe sur un problème donné avec un certain nombre de techniques de créativité pour avancer vers des solutions, et qui fait qu'il y a une mise en commun de la réflexion qui va sensibiliser les individus. C'est amusant, ça ne dure pas très longtemps, et en plus, ils vous offrent des bonbons, ce qui est quand même super chouette. Donc, je vous encourage vraiment à y aller si vous avez le temps. Les animateurs sur le stand seront ravis de vous accueillir, et je vous garantis que vous y passerez un bon moment. Et sinon, de façon plus lointaine, je vous engage tous à réfléchir et à méditer sur tout ce qui s'est dit ce soir, qui est quelque chose de vraiment vital pour la planète et pour nous. Et puis, peut-être, donc... réfléchir jusqu'à l'année prochaine, où on se retrouvera probablement pour un autre débat aux imaginales sur des thématiques, encore une fois, du même genre, en lien avec Une autre terre et le SCOT. Merci beaucoup pour votre attention.
Juste pour ceux qui seraient intéressés, j'ai quelques exemplaires des deux livres de Negawatt. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir me voir. Je les ai ici dans mon sac.